Alors, je voudrais vous parler d'une chose extraordinairement simple, extraordinairement facile, et qui va déboucher dans quelque chose d'extraordinairement difficile. Je dis pas simple, ça reste simple, mais bon. Je voudrais vous parler de la prière. Ça vous intéresse, je suppose, parce que c'est un sujet qui vous tracasse, comme les apôtres qui disaient au Christ, apprends-nous à prier, ou apprenez-nous à prier. Vous voudriez bien que je vous apprenne à prier, peut-être, je ne sais pas. Ça doit être un problème pour vous. Et c'est vrai que prier, c'est une des trois grandes choses qui nous assure du salut. Celui qui priera avec persévérance sera sauvé. Et les deux autres, c'est la charité fraternelle, et puis c'est ce que j'appellerais la lutte contre l'orgueil. La lutte contre l'orgueil, c'est la classe élémentaire. La classe supérieure, c'est l'humilité. Ça, c'est plus calé. Mais lutter contre l'orgueil, on peut comprendre un peu ce que ça veut dire, ça. C'est ce que j'appelle la classe élémentaire. Dans la même ligne d'idée, après lutter contre l'orgueil, on cherche ce que c'est que l'humilité. Bon, la charité fraternelle, bon, on en reparlera. La prière. Alors, pour vous montrer comme c'est simple, à première vue, je vais vous donner un exemple de prière, très simple. Mon Dieu, j'en peux plus. Voilà, je n'en peux plus. Ayez pitié de moi, j'en peux plus. Ben, c'est une très bonne prière, c'est une excellente prière, c'est une parfaite prière. Voilà. Alors, vous voyez, c'est pas sorcier. À première vue, comme ça. Hein, c'est pas sorcier. Et quand on est capable de dire des choses comme ça, à Dieu, mon Dieu, j'en peux plus, mon Dieu, j'en ai marre de tout le monde et de moi, j'ai peur, faites-moi réussir un examen, même des choses comme ça, quoi. Guérissez telle personne. Tout ce qu'on voudra, quoi, de la même farine. T'es pas sorcier, hein? À première vue. Eh ben, on est capable de dire des prières tout aussi simples, mais qui sont déjà extrêmement traditionnelles dans l'Église, qu'il était du moins autrefois à Lourdes. Maintenant, je sais plus très bien ce qu'on dit, je soupçonne que c'est pas tout à fait pareil. En tout cas, j'ai connu le temps où, au moment de la procession du Saint-Sacrement, à Lourdes, il y avait des invocations, qui étaient des prières de ce genre-là, qui étaient très très belles, toutes simples, toutes tirées de l'Évangile, et qui, à chaque fois, moi, me chahouillaient le cœur d'une manière extraordinaire. C'était des choses comme « Mon Dieu » ou « Seigneur », je ne sais plus. « Faites que je marche. Seigneur, faites que je vois. Seigneur, faites que j'entende. » Bon, pour en ajouter aux choses, aujourd'hui, avec les charismatiques, on pourrait dire « Seigneur, faites que je chante. » On pourrait dire aussi « Seigneur, faites que je pleure. » Parce que j'ai le cœur dur, etc. Enfin, tout ce que vous voudrez. Et puis, ça se terminait par « Seigneur, celui que vous aimez est malade. » Oh, c'est magnifique, ça. Bon, ça, c'est de la prière. T'es pas sorcier ? T'es pas sorcier. T'es tellement pas sorcier, à première vue, que l'Église va très loin, le catéchisme va très loin, pour nous dire que tout le monde peut prier, n'importe qui peut prier. Il n'y a pas besoin d'aimer Dieu pour prier. Enfin, tout au moins un grand amour. Il y a un petit minimum qui est le genre d'amour dont le nourrisson aime sa mère. Hein. Ouais, évidemment. De ce côté-là, un peu quelque chose comme ça. Il aime sa mère parce que il fait bon chaud auprès d'elle, physiquement, moralement, il se sent bien. Bon, alors, il pourrait lui dire « je t'aime ». Bon, c'est très intéressé. Bon, alors, évidemment, il y a un minimum d'amour comme ça, dont il faut peut-être avoir un petit peu le germe, mais enfin, ça ne va pas chercher bien loin. Et en tous les cas, la vertu théologale de charité n'est pas du tout nécessaire pour prier. En tout cas, pour dire ce que je viens de dire, « mon Dieu, j'en peux plus. Mon Dieu, faites que je marche. Mon Dieu, faites que je crois. » Mon Dieu, faites que je vous aime, puisque je ne vous aime pas, il n'y a pas besoin d'avoir la charité. On peut très bien dire ça sans avoir la charité. Quelqu'un qui est en état de péché mortel peut très bien dire tout ça, en principe. très bien dire ça. Il n'y a donc pas besoin d'avoir la charité, il n'y a pas besoin d'avoir l'espérance. Mon Dieu, je désespère, mais si par hasard j'ai tort, aidez-moi, on ne sait jamais, quoi. Enfin, qu'est-ce que je risque ? On peut très bien dire ça. Et même, on n'a même pas besoin d'avoir la foi. Et même, on n'a même pas besoin d'être sûr que Dieu existe. Il y a une prière magnifique, que vous connaissez peut-être tous. Si vous ne la connaissez pas tous, ben vous allez la connaître. Mais certains doivent la connaître. C'est la prière de Charles de Foucault avant sa conversion. « Mon Dieu, si vous existez, apprenez-moi à vous connaître. » Il n'était pas du tout certain de l'existence de Dieu, il avait les plus grands doutes. Donc n'importe quel incroyant peut dire ça, à moins d'avoir décidé que Dieu n'existe pas, c'est idiot. Enfin bon, passons. Enfin, vous voyez que même l'éventail est très large et que, à première vue, prier, c'est pas sorcier et c'est accessible à tout le monde. Bien, bon, d'accord, ça va. Maintenant, je vais vous montrer que cette prière toute simple, toute bête, même, je n'en peux plus, et même chez vous, qui avez la foi, l'espérance et la charité, je l'espère, qui êtes en état de grâce, je l'espère, qui pratiquez les sacrements, qui communiez régulièrement, je l'espère, ben vous pouvez être parfois incapable de dire, mon Dieu, je n'en peux plus. Voilà. Alors ça, si j'arrive à vous expliquer ça, j'aurai gagné mon pari. Si j'y arrive pas, ben j'aurais raté. C'est un catéchisme très difficile que je voudrais vous faire là. Mais au moins, ce que j'ai dit jusqu'à présent, c'est clair. Hein, ça, vous ne pouvez pas me dire que je me perds dans les abstractions. Hein, c'est clair, c'est ça. Ce que je vais vous dire maintenant, c'est encore très clair. Mais ça va devenir déjà beaucoup plus mystérieux. C'est une histoire que j'ai racontée souvent pendant que je prêchais du temps de ma jeunesse. Et pour expliquer justement, pour donner un exemple de ce que c'est de ne pas pouvoir prier. Bon, c'est une histoire que m'avait racontée maman, qui avait été très fervente dans sa jeunesse, et puis pendant tout le temps de ma propre existence, ou plutôt de ma propre existence pendant qu'elle vivait, donc depuis mon enfance jusqu'au moment où je suis entré dans la vie religieuse, à ce moment-là elle est morte. Pendant donc 25 ans, quoi, à peu près, elle avait les plus grands doutes. Elle avait les plus grands doutes, elle ne pratiquait pas, elle fréquentait des socialistes, des francs-maçons, enfin des gens très distingués, mais qui ne l'encourageaient évidemment pas dans la foi chrétienne. Donc elle flottait beaucoup, elle ne pratiquait pas, elle souhaitait que j'aie la religion, elle voulait que je sois élevé dans la religion, et même dans la foi, elle disait tout le temps « Ah, ceux qui ont la foi sont heureux ». Il n'y avait aucune critique, il n'y avait aucune agressivité, aucune amertume contre certains détails de l'Église, oui, mais contre la foi en elle-même et l'Église en elle-même, absolument pas, mais comme une nostalgie, j'ai pas la foi ou je n'arrive pas à avoir la foi, comme ceux qui, les croyants sont heureux. Bon, il y avait ça. Et en même temps, ben, elle allait quand même à la messe et elle priait de temps en temps, la preuve qu'elle priait de temps en temps, c'est qu'elle était donc assistante sociale, ce qui correspondait, c'était la même chose, c'était infirmière assistante sociale dans un dispensaire contre la tuberculose. Elle était sous les ordres d'une infirmière chef ou d'une assistante sociale chef, je passe les détails, qui elle n'avait pas du tout la foi, et qui se rendait bien compte que maman, comparée à elle, qui était vraiment alors une laïque et obligatoire, je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, quoi, quelqu'un qui a été élevé dans l'incrédulité à la Frossard, je veux dire la famille de Frossard, qui est complètement athée, pas marxiste, mais athée. Alors elle sentait bien que maman priait de temps en temps, que c'était pas un problème pour elle tellement. Bien. Alors tout ça pour en arriver à une nuit pendant la guerre de bombardement. Il y a eu un bombardement, le seul bombardement sévère que maman ait connu. Moi, j'y étais pas. J'y ai échappé. J'étais à Paris, c'était à Argenteuil. Et donc les Alliés, les Américains, ont bombardé Argenteuil. Alors là, ils ont bombardé ça. Les bombes tombaient un peu partout. Il y a même une aile d'avion qui est tombée dans le jardin du dispensaire. Donc ils ont entendu siffler, ils ont cru que c'était la fin. Hein. Bien. Puis ça dure, ça a duré. Maman m'a dit après, ce qu'il y avait de pire, c'est que ça dure. Il y a une première vague, une deuxième vague. Alors elles étaient dans la cave, elles étaient à plat ventre. Pas tellement par humilité, n'est-ce pas? Mais par sécurité. Et à un moment, alors c'est ça, là, tout ça, c'est pour en arriver à une phrase très impressionnante pour moi, sur laquelle je voudrais insister, c'est qu'elles avaient très peur, toutes les trois, elles étaient trois. Et l'infirmière-chef a touché le coude de maman avec violence en lui disant, presque méchamment, « Priez, vous, puisque vous pouvez. » Voilà. « Priez, vous, puisque vous pouvez. » Les mamans, donc, qui n'avaient guère la foi, pouvaient prier. Et c'est vrai. Elles pouvaient prier. Dans ces moments-là, elles pouvaient prier. Elles pouvaient dire « Mon Dieu, au secours !» C'est bête, la prière toute facile. L'infirmière-chef ne pouvait pas. Et pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas la foi? Non. Puisque elle aurait pu dire « Mon Dieu, si vous existez, pitié !» Elle ne pouvait pas. Ça, c'est bien mystérieux. Bon. Je ne vais pas m'étendre sur le cas de cette infirmière, parce que ça nous entraînerait trop loin. Mais je voudrais vous dire, et c'est ça qui va être mon sujet d'aujourd'hui, c'est que vous pouvez, même vous, qui avez la foi, l'espérance et la charité, être amené petit à petit à un état où vous ne pouvez pas prier. Pas tout à fait pour les mêmes raisons que l'infirmière, mais où vous ne pouvez pas prier, je maintiens. Alors, je vais vous parler d'autre chose. Je vais vous parler de l'hypnose. C'est un mot que vous ne connaissez peut-être pas. Si je ne vais pas vous raconter tout ce que c'est, renseignez-vous, ceux qui ne savent pas. Enfin, quand l'hypnose, il y a un hypnotiseur et un hypnotisé. Ce que je n'avais pas bien compris avant une date récente, c'est que quand quelqu'un hypnotise quelqu'un d'autre, un sujet, il y a un hypnotiseur qui dit « Dormez, je le veux » à un hypnotisé, vous avez peut-être entendu parler de ça quand même, « Dormez, je le veux » et puis l'hypnotisé entre, comme on dit, en transe, et puis il est complètement sous la dépendance de l'hypnotiseur qui lui dit « Vous avez froid, il a l'impression d'avoir froid, vous avez chaud, il a l'impression d'avoir chaud, faites ceci, il le fait », il est complètement sous la dépendance de l'hypnotiseur. Mais ce qui est très important de savoir, c'est que pour pouvoir hypnotiser quelqu'un, il faut que le sujet y trouve son plaisir. C'est très très important. Vous ne pouvez pas. Quand vous hypnotisez quelqu'un, vous lui donnez quelque chose qui lui... Le fait d'entrer en sommeil, en dépendance à l'égard des hypnotiseurs, c'est agréable. C'est euphorisant, ça lui fait du bien. Jamais un hypnotisé ne consentirait à se faire endormir s'il ne trouvait pas ça agréable. Ça, c'est fondamental. Alors, il s'endort sous l'effet d'hypnose. Voilà. Alors, question toute bête, est-ce que pendant ce temps-là, il peut prier? Ben, évidemment pas. Sauf une petite exception de taille dont nous reparlerons tout à l'heure. Normalement, il ne peut pas prier, parce qu'il dort, tout simplement. Bien. Or, il a été hypnotisé parce qu'il a accepté, et peut-être même qu'il a eu envie. C'est pas désagréable de se faire endormir comme ça, hein? Bon. Eh bien, je dis que les enfants qui, depuis leur jeune âge, aujourd'hui, dans notre civilisation, et certains adultes, qui se mettent devant la télé d'un bout à l'autre de la journée, sont hypnotisés. Et qu'ils n'ont pas envie de se réveiller. Alors ils ne peuvent plus prier. Parce qu'ils sont drogués et hypnotisés. Ils dorment. Et ceux qui prolongent les choses, parce que malgré tout on ne peut pas être tout le temps devant la télé, il faut bien s'habiller, il faut bien aller dans la rue, alors il y a le Walkman. Et alors, on ne sort plus de l'hypnose. C'est très simple. Et c'est comme ça qu'on apprend justement à ne pas penser. Comment voulez-vous penser quand on dort? Et naturellement, ne pas prier. On ne peut ni penser, ni... Alors voilà le danger majeur, mortel, qui même vous menace. Et vos amis, vos camarades, toute la génération qui est autour de vous, d'une manière terrible. Et il n'y a qu'une solution vis-à-vis de ces gens-là. Et c'est quelquefois même des adultes, n'est-ce pas, qui petit à petit, bon, ils ont leurs heures de lucidité, mais ils ont leurs heures d'hypnose, où ils se mettent devant la télé, comme ça, et puis ils zappent, bon, ils sont hypnotisés, et ils aiment ça, comme je vous l'ai dit, on est hypnotisé parce qu'on aime ça. Alors il n'y a pas moyen de les faire penser, et il n'y a pas moyen de les faire prier, de sorte que, mon Dieu, j'en peux plus, mon Dieu, j'en ai marre, c'est devenu impossible, parce que ce serait s'éveiller. Et ils ne veulent pas s'éveiller, ils n'ont pas envie de s'éveiller. Ils préfèrent dormir tranquillement, hein, comme ça. Alors, pour cela, il n'y a qu'une solution, c'est une espèce de petit miracle qui est celui du Christ. Lève-toi et marche. Réveille-toi. Or, il n'y a que l'hypnotiseur qui peut réveiller l'hypnotisé. Alors, ici, je suggère. Et c'est là que ça devient de plus en plus difficile, mon affaire. C'est une petite suggestion, c'est le cas de dire, parce que l'hypnose, c'est une suggestion, une petite suggestion. Mais on peut discuter ce que je vais vous dire là. Je vais terminer là-dessus, parce que j'en ai dit déjà pas mal aujourd'hui. Hein. Vous pouvez faire votre picotin de ce que je viens de vous dire là, et on y reviendra. Mais je suggère qu'il y a dans la prière collective de l'Église, ça existe, la prière collective dans l'Église, eh bien, c'est un peu une hypnose, mais une bonne hypnose. La prière collective dans l'Église. Quand vous entrez dans un couvent, je ne sais pas si ça vous est arrivé, dans un couvent de contemplatifs, chez des trappistes ou des carmélites, et puis que vous vous laissez porter par la prière ambiante, ben, vous vous laissez hypnotiser, mais de la bonne manière, par la prière de l'Église. Et les charismatiques, ben, y a de ça. Vous vous laissez hypnotiser par la louange ambiante. Seulement, c'est une bonne louange, c'est une bonne prière, parce que vous êtes hypnotisé par l'Église ou la communauté charismatique, qui à ce moment-là peut de temps en temps vous réveiller en vous disant, lève-toi et marche, réveille-toi, prie toi-même. Pour le moment, je prie pour toi, je t'aide à prier, alléluia, le Seigneur est là, comme ça, je monte tout ce qu'on voudra. Bon. Non, mais je ne ris pas, c'est très très beau. C'est très respectable, ça peut être aussi le grégorien. Bon, c'est très beau aussi, ça. Et on se laisse porter par ça. Et puis, de temps en temps, on vous dit, mais réveille-toi, prie toi-même. Et quand vous récitez une prière, ce qui n'est pas forcément prier, mais quand vous récitez une prière, surtout en commun, si vous vous mettez à dire le chapelet en commun, ou que vous allez à la messe, mais là, dans une messe où on prie vraiment, eh bien, vous vous laissez un peu hypnotiser par la prière de l'Église. Vous vous laissez bercer, vous vous laissez porter, ça prie autour de vous, et bien vous vous laissez prendre, et c'est agréable. Alors ça, c'est une bonne hypnose, celle-là. Parce que justement, à l'intérieur même de ce rêve, de cette hypnose, cette suggestion de la prière que l'Église vous donne en douceur, elle peut vous réveiller, vous dire, eh bien, prie toi-même, hein, réveille-toi un peu, prie à ton tour, mets-y du tien, et dis à ton tour, mon Dieu, celui que vous aimez est malade. Ça se fait en douceur à l'intérieur même de la prière collective, qui est un peu ça. Et si vous dites une dizaine de chapelets, vous la récitez machinalement, mais en fait, quand vous dites une dizaine de chapelets, vous, c'est pas une prière individuelle. Vous êtes unis à la prière collective des centaines de mille, peut-être des millions de gens qui en ce moment même disent le chapelet avec vous, et vous vous laissez porter par toute la prière de l'Église qui récite les mêmes prières que vous. C'est pour ça que vous n'avez pas besoin de vous réveiller forcément, vous récitez un peu. Et c'est une sorte de bonne hypnose à l'intérieur de laquelle peut-être vous pourrez vous réveiller. C'est ça un peu la grâce que je vous souhaite, et en même temps le chemin que je vous propose pour ceux que vous voulez guérir. Vraiment, les charismatiques sont très providentiels, parce que tous ces jeunes drogués dans le sens de la télé que je viens de dire, ces jeunes hypnotisés qui courent les rues, et qui en Walkman de préférence, pour mieux être débranchés justement du réel, Car c'est ça le rêve, l'hypnose. C'est de se... On est débranché du réel à l'aide de, hein, de l'hypnose. Bon, eh bien, ils se laisseront emporter vers les charismatiques, et puis ils se douteront pas qu'ils sont branchés sur autre chose, et petit à petit, ils peuvent être réveillés par la louange et par la prière de la communauté charismatique. Ça, ça peut les sauver. Vous voyez le danger mortel que ça représente, et alors, c'est là-dessus que je conclue, l'énergie extraordinaire que ça vous demande, que ça peut vous demander dans certains cas, parce qu'il n'y a pas que l'hypnose, il peut y avoir le murmure, il peut y avoir la mauvaise humeur qui fait qu'on se replie sur soi, l'énergie extraordinaire qu'il faut déployer dans certains cas pour dire « Mon Dieu, j'en peux plus ». Vous ne pouvez pas savoir, il faut se réveiller de toutes ces rancœurs, de toutes ces rancunes, de tous ces accablements, de l'hypnose, du découragement, ça existe aussi. Moi, on a envie de s'endormir et d'en finir. Bon, ben, il faut se réveiller de ça pour dire, mon Dieu, j'en peux plus. Mon Dieu, je m'ennuie dans la vie. Mon Dieu, je sais pas ce que ma vie veut dire. Mon Dieu, ayez pitié de moi, car c'est toujours à ça que ça doit aboutir, c'est une vraie prière. Mon Dieu, celui que vous aimez est malade. Ça, on se réveille, mais en étant simple. Pas en fabriquant des prières toutes faites. Si vous fabriquez des prières toutes faites, que ce soit pour vous laisser envoûter, endormir par la bonne suggestion hypnotique de l'Église. Alors bon, bah, vous répétez Notre Père, je vous salue Marie. Très bien, parce que d'autres le font avec vous et que vous vous laissez porter par eux en récitant le chapelet. Mais tâchez de temps en temps de vous réveiller pour pousser un cri personnel. Ça, c'est la prière. Que ça dure un quart d'heure ou une seconde, ça, c'est un détail. Qu'il y ait des distractions ou qu'il n'y en ait pas, c'est un autre détail. Le fond, c'est ça. C'est qu'il faut y mettre, il faut devenir simple. Et il n'y a rien de plus difficile que de devenir simple. J'ai dit qu'il y avait un bon hypnotisme quand vous êtes dans une prière collective. Vous êtes porté par quelque chose qui peut vous envoûter dans le sens de prier. Prier en se laissant bercer par la prière des autres. C'est pas forcément catastrophique, mais il ne faut tout de même pas que ça aille. Quelquefois, ça peut aller jusqu'au ronronnement. Les autres battent des mains, Seigneur, ça va bien. Enfin, je dis chez les charismatiques ou bien chez les bénédictins, c'est le grégorien, avec toute cette espèce de vague lente de la mélodie grégorienne. Alors, on est bercé tranquillement. Ou bien il y a encore des récitations d'office à la manière des chanoines dans les cathédrales. Je ne sais pas comment ça se passe maintenant, moi j'ai entendu ça il y a 50 ans, c'était assez catastrophique. Bref, on raconte une histoire qui est justement une histoire de réveil de l'hypnotisme que provoque ce genre de prière collective où on ronronne et où ben, il faut se réveiller pour prier, c'est ça qui est un comble. Donc des chanoines dans une cathédrale récitaient l'office et ronronnaient consciencieusement lorsque éclate un gros orage et les murs tremblent, ça craque de tous les côtés et les chanoines finissent par avoir peur, quoi. Et ça les réveille si bien que le prieur, le supérieur, dit « Mes frères, arrêtez et mettons-nous à prier. » Alors... Vous voyez, ça vous montre que prier, c'est quelque chose qui peut... qui suppose une certaine intensité émotive quand ça ne va pas. Par exemple, les apôtres, au moment de la tempête, ils se mettent à avoir peur et ils prient. Ils disent « Seigneur, aie pitié de nous, tu es en train de dormir, qu'est-ce que tu fais ? Tu vois bien que nous périssons. » Bon, c'est comme ça qu'il faut prier souvent avec Dieu, mais tu ne vois pas où nous en sommes. Seigneur, j'en peux plus, Seigneur, aie pitié de moi, mais pour ça, il faut éprouver une émotion, il faut se réveiller, il ne faut pas ronronner trop quand même. Alors, laissez-vous porter par la prière de ceux qui prient chez les charismatiques ou dans les couvents, ou même en paroisse, mais de temps en temps, réveillez-vous. Et alors, si vous vous réveillez, si vous décidez de dire quelque chose à Dieu, quoi, quitte à vous emporter contre lui, à crier votre souffrance, ou crier votre désir, ou crier votre amour, on ne sait jamais, ça peut arriver, nous y reviendrons. Alors là, il se passera quelque chose. Alors là, il y aura du spectacle. Parce que le Christ vous a prévenu, demandez, et vous recevrez. Et il n'y a pas d'exception. Sauf, il y a beaucoup d'exceptions, tout simplement pour une raison très simple, ben c'est que vous n'y croyez pas. Et moi non plus. Je suis le premier à reconnaître que quand je demande à quelque chose, à Dieu, même intensément, même qui compte pour moi, est-ce que j'ai cette certitude que dit le Christ, quand vous demandez quelque chose, et surtout si vous vous mettez à plusieurs, croyez que vous l'avez obtenu, je sens bien que le Christ me dirait, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Si tu avais la foi comme un grain de sénevé, comme un grain de moutarde, tu dirais à cette montagne de se précipiter dans la mer, et elle se précipiterait dans la mer, tu dirais à cet arbre de se déraciner et de se précipiter dans la mer, et il irait dans la mer, autrement dit, tu ferais des miracles. Et quand on se met à croire, vraiment, que la prière est exaucée, eh bien, on fait des miracles. Des miracles visibles, spectaculaires, chez certains, ou bien des miracles invisibles, cachés, mais spectaculaires pour celui qui les reçoit, mais on fait des miracles. Le père Tardif fait des miracles. La sœur Brig McKenna, dont nous reparlerons, fait des miracles, à l'appel. Et des miracles extraordinaires, tout simplement parce qu'ils y croient. Alors, je voudrais vous parler de ça, parce que la première raison donc pour laquelle, quand on prie, on n'est pas exaucé, c'est qu'on n'y croit pas. Même si on demande des miracles, on serait exaucé si on y croyait. À une petite réserve près. Parce que, bon, le plus simple, c'est que je vous raconte un film que vous ne verrez jamais parce qu'il a disparu dans les profondeurs du classement, comme on dit en tennis, c'est-à-dire d'avant la guerre de 39. Moi, je voyais des films quand j'avais 20 ans, 3 ou 4 fois par semaine, et 2 films par séance, ça y allait. Et c'était des films dont vous n'aurez plus à peu près aucune idée maintenant, parce que ça, c'est introuvable. Alors ça, c'est un film qui s'appelait L'homme qui faisait des miracles, justement. L'homme qui faisait des miracles, un film anglais, tiré d'un roman de Wells, qui existe, que vous pourriez trouver, lui, alors. Ça peut peut-être se trouver en librairie. L'homme qui faisait des miracles. Bien, alors, ça raconte quoi? Ben, ça raconte, imaginez un pub anglais, c'est-à-dire un café, au petit matin, le petit déjeuner, le breakfast, ils sont là, au comptoir, et puis ils causent, comme on peut causer de choses et d'autres, et puis arrive un brave homme qui se doute de rien, et sur lequel on voit une espèce de doigt mystérieux, un signe invisible, comme une sorte de Pentecôte, une langue de feu, si vous voulez, quoi. Quelque chose qui se pose sur sa tête. Il sent rien, le gars, hein. Il se doute pas de l'affaire. Mais ça se pose sur sa tête, et puis il s'assied, et puis alors il demande en anglais, que je ne saurais pas imiter, hein, voilà. De quoi est-ce que vous parliez? Et il répond, on parlait de miracles. Ah oui, des miracles, oui, hein, vous voyez. We're talking about miracles. Ah, yes, miracles, yes. Bon. Alors, ils continuent à causer de miracles. Et puis, ils évoquent l'idée de faire je sais pas quoi. Le miracle, c'est de faire disparaître une salière. Il dit, tiens, oui, on va faire disparaître une salière. On lui suffit de dire, disparaît salière et disparaît. Alors, il s'amuse, il dit, disparaît salière. Puis là, la salière disparaît. Alors, ça lui fait un jeton. Et il continue, puis il s'aperçoit qu'à chaque fois qu'il veut faire un miracle, il fait le miracle. Il a le don, ça y est, il a le pouvoir. Il a reçu le don de faire des miracles. Il en fait tant qu'il veut à l'appel. Alors ça change sa vie, forcément. Et puis alors, il a l'idée que ça pourrait aussi changer de la vie de la société. Il aurait envie de faire du bien aux hommes, de multiplier l'argent, et alors il accumule les catastrophes, alors là, parce que c'est très gentil de faire des miracles, mais lesquels? Voilà. J'ai tous les pouvoirs, tu as tous les pouvoirs, tu peux faire tous les miracles, dit le Seigneur à son serviteur éploré. Ben oui Seigneur, mais lesquels qu'il faut que je fasse? Parce que si on ne pose pas cette question, si on ne dit pas comme saint Paul, au fond, ce que nous devons demander, nous n'en savons rien, nous ne savons pas ce qu'il faut demander. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire que je sois riche, que les autres soient riches, que les malades guérissent. Ben d'accord, c'est tout, que les malades guérissent. Enfin, Lazare, il est ressuscité, on va se mettre à ressusciter les morts. Vous trouvez que c'est drôle puisqu'ils vont remourir? Quel intérêt? Alors qu'est-ce qu'il faut demander? Mais finalement, on n'en sait rien. Vous voyez, alors, nous sommes dans une très drôle de situation. Dieu n'exauce pas toutes les prières, même si elles sont faites avec la foi, parce que tout n'est pas bon. Et que nous ne savons pas ce qui est bon. Au fond, nous ne savons pas ce qui est bon. Nous ne savons pas ce qu'il faut demander. Le pouvoir de faire des miracles, ce serait une chose terrible, parce qu'on ne saurait pas quoi en faire. Et la première chose, donc, qu'il faut demander, il y en a trois à demander. Ce sera bon caté, mais je veux une montre. Tiens, je vais demander une montre. Ce n'est pas un miracle, mais enfin, bien. Eh bien, si, elle est là, voilà, c'est merveilleux. Bien. Alors, première chose qu'il faut demander, la foi qui soulève les montagnes. Vous ne l'avez pas, moi non plus. Demandons-la. Seigneur, augmente en nous la foi. Et il répondra, en effet, vous avez pas la foi, si vous aviez la foi comme bon. Ah ben Seigneur, est-ce que tu crois? Tu me demandes quelque chose. Est-ce que tu crois que je peux le faire? Répondez, c'est dans l'évangile. Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Bon. Alors on va se mettre à croire. Si vous demandez d'avoir la foi, qui fait des miracles, vous aurez la foi qui fait des miracles. Promis, garanti, sans facture. Mettez-vous-y tous les jours. À vous de demander tous les jours, persévérance. Hein. Seigneur, augmente-nous la foi, donne-moi la foi qui soulève les montagnes, vous l'aurez. Bon. Deuxième chose qu'il faut demander, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais avoir la foi qui fait des miracles, qu'est-ce qu'il faut que je demande? Comme la femme, comme la fille d'Hérodiade, qu'est-ce qu'il faut que je demande? La tête de Jean-Baptiste, bon. C'est pas, hein, vous voyez, faut pas demander n'importe quoi, bon. Vous voyez, bien. Alors, donc, deuxième question. Qu'est-ce qu'il faut que je demande, Seigneur? La sagesse, la lumière qui permet de savoir ce qui est bon pour nous dans la vie et que nous ne savons pas. Ce qui est bon au fond. Si Hitler était mort à 12 ans, ça aurait mieux valu pour lui et pour beaucoup de gens. Comment savoir? Alors le guérir d'une maladie, s'il avait une maladie, vous trouvez que c'est malin? Bon, qu'est-ce qui est bon? Nous ne savons pas. Alors demandons la lumière, qu'est-ce qui est bon pour moi? Troisièmement, mon catéchisme il est déjà terminé, sauf que je vais en rajouter un deuxième, qui va amorcer alors un troisième peut-être et d'autres. Je vais tout de même vous dire ce qu'il faut demander. Admis que vous ayez la foi qui soulève les montagnes, vous demandez qu'est-ce qu'il faut demander, et vous me le demandez à moi, représentant l'Église, qu'est-ce qu'il faut demander. C'est très simple. Enfin, vous demandez beaucoup de choses, tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez, pourvu que vous vous en remettiez un peu avec confiance à Dieu qui sait mieux que vous ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Bon, alors tout ce que vous voulez, même de réussir aux examens, ou d'être guéri, tout ce que vous voulez. Mais, quel est le plus important à demander? Alors, c'est une chose très simple, le bonheur d'aimer. Le bonheur d'aimer. Et j'ajoute, et c'est ça qui va être mon catéchisme, pas le bonheur d'être aimé. Pourquoi pas le bonheur d'être aimé? Tout simplement. Parce que si vous aviez la foi, gros comme un grain de senvé, tralala, tralala, au refrain, vous sauriez que vous êtes aimé. Vous n'auriez pas besoin de le demander. Et vous le sauriez tellement bien, d'une manière que moi-même je ne sais pas. Je ne sais pas comment je suis aimé. Et je sais que je ne le sais pas. Je sais que je ne sais pas à quel point je suis aimé. Par Dieu, par le Christ, par la Sainte Vierge. Ça, je sais que je ne le sais pas. Et je sais que si je le savais, enfin, si je dis à Dieu, mon Dieu, montrez-moi à quel point vous m'aimez. Ça, c'est une demande dangereuse. Demander le bonheur d'être aimé, ça, c'est pas dangereux. Mais demander même à comprendre à quel point on est aimé, ça, c'est dangereux. Parce que si jamais Dieu vous prend au mot et qu'il se met à vous montrer comment il vous aime, alors vous serez terrifié. Mais alors là, je dis terrifié. La grande panique et le grand danger de dire non, c'est trop. Je peux pas. Et c'est pour ça, et ça, ça fait partie de mon cathé d'aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faut surtout mettre la Sainte Vierge dans votre poche. Il y a des tas de raisons. Bon, c'est une mère, c'est notre mère, c'est la vraie mère, c'est la maman du ciel, une mère qui comprend tout, qui pardonne tout, qui justement accueille toutes nos demandes, toutes nos bêtises, on peut être tout ce qu'on veut avec elle, aussi simple que possible, aussi bête que possible. Vous êtes très bête avec la Sainte Vierge, plus vous serez bête, mieux ça vaudra. Bon, il faut pas se contenter d'être enfant, faut être gosse, faut être crétin, faut être un horrible moutard, faut tout ça. Bon, tout ça, avec la Sainte Vierge, faut y aller. Bon, et elle prend tout, et puis elle fait le tri, elle arrange ça, et elle vous rate pas. Bon, c'est merveilleux avoir une mère comme ça, enfin, oui, ça vaut la peine. Ça, c'est la raison la plus accessible, je pourrais prêcher pas longtemps là-dessus. Mais il y en a une autre bien plus profonde. C'est que si vous devez un jour découvrir à quel point Dieu vous aime, alors ça, sans la Sainte Vierge, c'est la folie. C'est pas compliqué, c'est la folie. Garantie. Comme refuge pour vous protéger de cet amour. Parce que quand on est aimé par un fou, ça n'est jamais très rassurant. En général, dans la vie, je sais pas, bon. Or, les fous les plus fous ne sont rien à côté de l'amour de Dieu et du Christ. Mais vraiment, de l'eau tiède, de la bibine, de tout, rien. Alors si la violence et la folie de cet amour de Dieu pour vous se dévoile, vous n'aurez pas trop de la Sainte Vierge pour vous protéger. Ayez pitié de moi, si je suis aimé à ce point-là, je ne peux pas supporter, je ne peux pas répondre, il n'en est pas question, mais même affronter, supporter le poids de cet amour, c'est terrifiant. Alors, ayez la Sainte Vierge dans votre poche pour pouvoir supporter la révélation de l'amour que Dieu a pour vous, mais ne demandez pas d'être aimé, parce que je vous assure que vous l'êtes. Ça, alors, de ce côté-là, c'est garanti. Simplement, demandez peut-être à le comprendre tout doucement dans le cœur et dans le manteau de la Sainte Vierge. Par contre, le bonheur d'aimer, vous. Alors vous risquez rien de demander ça. Parce que ça, vous ne l'avez pas. Vous ne savez pas aimer, je ne sais pas aimer, nous ne savons pas aimer, ils ne savent pas aimer, ça se décline. Ça se conjugue, tout ce que vous voudrez. Ça. Alors là, tous les jours, demandez. Les grands événements de votre vie dépendent de petites choses comme ça que vous ferez sérieusement tous les jours. Mais une seconde, hein. Augmentons-moi la foi, dis-moi ce qu'il faut que je demande, et donne-moi le bonheur d'aimer. Si tous les jours, sérieusement, vous prenez le temps de dire ça en pensant ce que vous dites, croyez-moi, un jour, il y aura du spectacle. Il y aura des miracles. Certains un peu terrifiants, la Sainte Vierge est là. D'autres magnifiques, et alors il faut mieux que la Sainte Vierge soit là aussi pour qu'on ne la ramène pas. Je vous ai dit que c'est très dangereux de la ramener, alors ça c'est vraiment dangereux. Alors, faites ça, et vous vivrez, comme il est dit dans l'Évangile, dans la Bible, et pardonnez-moi de ne pas vous en dire plus aujourd'hui, je suis un petit peu fatigué, c'est peut-être la raison. C'est court, combien de temps j'ai parlé? Ça vous a peut-être des questions, ça peut m'aider à faire à jouer les prolongations.
Quand il faut qu'on demande à la Sainte Vierge de nous protéger de Dieu, c'est-à-dire de
dire que
la Sainte Vierge est obligée de nous
protéger. Ça fait bizarre, hein.
Ouais. Mais à la fois je comprends, mais à la fois ça me fait bizarre, quoi.
Est-ce que il est le seul, vous aussi ça vous fait bizarre?
Je suis d'accord.
Ah bon. je comprends. Les filles sont plus intuitives que toi, mon cher David.
En fait, c'était vraiment une question, ça m'étonnait un peu
Ou bien on n'aura jamais affaire à Dieu, vraiment. Ou bien on aura quand même besoin d'une petite protection. Et cette petite protection, c'est la Sainte Vierge. C'est le voile maternel qui permet de supporter le soleil du midi. Parce que si dès qu'on regarde le soleil, on devient aveugle. C'est déjà vrai, physiquement, mais quand c'est fait du soleil de Dieu, auprès duquel, comme disaient les prières de mon enfance, les plus éclatantes lumières ne sont que d'épaisses ténèbres. Bon. Ça répond un petit peu à la question.
Moi j'ai une question.
Oui.
Alors, quand on est au ciel, comment ça se passe quand on voit Dieu face à face?
Ah ben on est habitué, on est refondu, on est habitué. On a été traité par la Sainte Vierge, justement. Et on reçoit justement alors le coffre, c'est-à-dire un corps glorieux. Mais un corps glorieux, c'est justement quelque chose qui ressemble à ce que Moïse avait déjà un petit peu en sortant de là. Il avait un corps un peu, pas encore glorieux, mais un peu glorifié. Et c'était déjà trop, hein. Et tu ne pourrais pas supporter actuellement la présence de ton propre corps glorieux plus tard. Tu mourrais tout de suite à la vue d'un corps glorieux. Ce serait vite réglé, n'est-ce pas? La mort sans phrase. Ouais. La mort, une mort souhaitable d'ailleurs. Moi, j'aimerais mieux mourir de ça que de mourir dans les ténèbres des cachots, mais nous en reparlerons.